Bonjour, Yves au micro-micro pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne dérogera pas à la tradition en vous apprenant ou en vous rappelant que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent depuis un certain temps déjà. Alors ça, je ne le fais pas à chaque fois, mais pour aujourd'hui, ce sera un spécial. Vous allez comprendre pourquoi le générique de notre émission est bien évidemment une musique de film, en l'espèce celle d'un film de Blake Edwards, Une petite merveille, tournée en 1962. Ça s'appelait en français On ne sait trop pourquoi, Diamant sur canapé. En anglais, Breakfast at Tiffany's. Audrey Byrne et George Peeple étaient dans les rôles principaux. Et c'était Henry Mancini qui était à la baguette de ce Moon River, qui cette année-là obtint l'Oscar bien mérité de la meilleure chanson, qui depuis est devenue un standard. Et dans Diamant sur canapé, eh bien, il y avait parmi les acteurs principaux notre vedette de ce jour, l'un des plus beaux animaux de la création, le cousin, la cousine du tigre ou du lion. Mais non, pas le loup. Je vous rappelle que les loups sont des chiens. Le chat sera la vedette. Eh ben oui, de 24 notes secondes ce jour. Et dans Diamant sur canapé, eh bien la délicieuse Audrey Byrne avait un chat qui s'appelait Chat. Tout simplement, on n'avait pas réussi à lui trouver un nom. Donc, jusqu'à la fin, quand Audrey Hepburn et George Peeple se rejoignent dans une rue de New York, alors qu'il pleut, le chat entre eux échange un premier baiser. Bref. J'aurais dû passer à un autre extrait de Diamant sur canapé. Mais le chat ne joue pas dans ce film, un rôle aussi important que dans les films fondamentaux que nous allons évoquer. On va tout de suite écouter, je vais quand même vous en dire deux mots, mais on va tout de suite écouter un extrait de la bande originale d'un petit chef-d'œuvre, je ne crains pas de le dire, signé en 1963 par l'équipe, je dirais, Walt Disney. En 1965, pardonnez-moi, par l'équipe Walt Disney. Ça s'appelait en français, titre bien choisi, L'espion aux pattes de velours. En anglais, ça s'appelait tout simplement That Darn Cat, ce qui veut dire littéralement ce maudit chat. C'est quand même pas très très gentil. Et comme vous l'aurez peut-être deviné avec l'explicite du titre français, eh bien, c'était l'histoire d'un chat particulièrement ingénieux qui réussissait à déjouer de sombres complots d'humains, bien sûr. Le film a présenté la particularité d'avoir été tourné sur deux plateaux différents, un pour les humains et un pour les chats, évidemment un peu plus petit. Et on avait même des effets de caméra au ras du sol pour filmer, je dirais, ce que voient les chats, même si c'est bien difficile de savoir ce que voient les chats. La vedette principale de ce film s'appelait Sin Cat, Sin avec un Y et non pas Sin comme péché, ça aurait été bienvenu. Bon, c'était lui qui était dans les gros plans, mais il avait 3-4 doublures pour, je dirais, les rôles secondaire et surtout pour apprendre à chacun des chats les gestes qu'il devait faire, car il n'y a rien de plus difficile à apprivoiser qu'un chat, c'est même ce qui en fait le charme. Je vous rappelle que Jacques Prévert disait qu'il préférait les chats parce qu'il n'avait jamais vu de chat policier. Ma foi, c'était bienvenu. Allez, on écoute un extrait, la chanson de la bande originale de L'espion aux pattes de velours. La musique, elle est de Bob Brunner. Les chansons, elles sont de Richard et Robert Sherman. That Darn Cat, dans 24 notes, second.
While the city sleeps, every night he creeps, just surveying his domain. He roams around like he owns the town. He's the king, he makes that plain. He knows every trick, doesn't miss a lick when it comes to keeping fat. Some city slicker, no one is quicker than a that darn cat. Every nook and cranny and garbage can he inspects so thoroughly. When he's on his rounds, nothing's out of bounds to his curiosity. He can smile and purr at a pretty hurt till she don't know where she's at. Nose like a Geiger, oh what a tagger's a bat darn cat. He's a sly old codger, an artful dodger, a scrounger unsurpassed, a ball of fire, a nine live wire who just can't be outclassed. Yeah, this midnight rover, he lives in clover, it's an art he's got down pat. I never was a greater smooth operator than a bat darn cat. Thank you.
Now our cat's been paid every accolade, and he's earned all his acclaim. In a blaze of glory, he ends our story in the Feline Hall of Fame. But the way life goes in a year, who knows? From the family he begat, you may wind up with one of, maybe the son of that darn cat. Of that darn cat. So now you've heard the tale I tell. That's T-A-L-E, not T-A-I-L. I'm talking about the tale of that darn cat.
Miaou! C'était Bobby Darin qui vous interprétait That Darn Cat, un extrait de la bande originale de L'Espion aux pattes de velours, un petit chef-d'œuvre signé par Robert Stevenson, un vieux routier des studios Disney. Il me semble qu'il avait notamment signé une adaptation de L'Île au Trésor, comme son illustre homonyme, sorti le 2 décembre 1965, pour être précis, sur les écrans américains, dans notre émission de ce jour consacrée au chat, et qui va sauter comme un chat, sans souci chronologique, en 2003. Et on va écouter un extrait de la bande originale d'un film intitulé The Cat in the Hat, qui est une adaptation d'un livre très connu aux États-Unis, Le chat chapeauté en français, ça s'appelle, du Dr. Seuss. Alors le Dr. Seuss, il est complètement inconnu de ce côté-ci de l'Atlantique, mais on lui doit notamment le Grinch, une autre créature un peu bizarre et plutôt malfaisante, qui a déjà fait l'objet de nombreux films aux États-Unis, mais rien n'y fait. L'homme et ses personnages restent très très peu prisé de ce côté-ci de l'Atlantique, et c'est aussi le cas donc du chat chapeauté, un film qui raconte l'histoire d'un frère et d'une sœur pour lesquels leur mère engage une babysitter un peu spécial et surtout un inconnu qui arrive pour leur apprendre des choses et qui se trouve tout à la fois être un chat, porter un chapeau et parlant. Donc le chat chapeauté, vous l'aurez compris. Alors le film, il met en vedette Mike Myers, plus connu sans doute pour être l'interprète de Austin Powers, et quelques autres acteurs un peu moins connus. On ne peut pas dire qu'il ait connu une grosse fortune puisqu'il n'obtint aucun Oscar. Par contre, il fut nominé plusieurs fois aux Razzie Awards, qui existe depuis un peu moins longtemps que les Oscars et qui récompense, si l'on peut dire, les pires films sortis pendant l'année. Et le chat chapeauté fut nommé dans plusieurs catégories. Alors, pire film, pire acteur pour Mike Myers, pire couple à l'écran, donc pour Mike Myers et je ne sais pas qui, d'ailleurs, sa femme à l'époque, pire second rôle masculin pour Alex Baldwin, pire réalisateur, pire scénario, autant dire que le film doit être particulièrement bienvenu, et il obtint quand même le prix, moi j'aime beaucoup ce genre d'humour, comme pire ersatz de vrai film. Bref, ça ne va pas nous empêcher d'écouter un extrait de la bande originale de ce film, puisqu'elle n'a pas été nommée comme étant la pire de l'année. Elle est signée du grand David Newman, tout simplement. Le chat chapeauté, The Cat in the Hat, dans 24 notes, secondes. We'll be right back. Voilà l'allègre musique de David Newman pour un extrait de The Cat in the Hat, le chat chapeauté, adapté du roman du docteur Seuss paru en 1957, un film sorti en 2003, donc qui, comme je l'ai évoqué avant d'écouter cet extrait, ne connut pas un grand succès critique, voire commercial à ma connaissance, mais qui est dans la catégorie chat qui nous occupe ce jour. Alors arrêtez d'inonder le standard de la radio. Oui, nous allons écouter un extrait des Aristochats. Évidemment que nous allons écouter un extrait des Aristochats. Et c'est maintenant, ou presque, puisque je m'en voudrais de ne pas vous dire que les Aristochats est un des premiers films à avoir été tourné, si on veut employer cette expression, après la mort de Walt Disney, mais tout en respectant pieusement l'esprit et la technique, puisque nous sommes encore au temps du cinéma animé peint à la main. Et pour vous donner une idée du travail colossal que peut représenter la réalisation d'un dessin animé, eh bien sachez que la réalisation des Aristochats se poursuivit pendant 4 années, occupa 250 personnes, et que le film comporte, qui dure 78 minutes, c'est-à-dire à peine même pas 1h30, 1h20, eh bien comporte 325 000 dessins. Je vous laisse imaginer le travail colossal qu'il fallut pour eux, ce qui est quand même une très très grande réussite, toujours très appréciée, avec le chat sorti de la classe ouvrière, Thomas O'Malley, et puis Duchesse, bien sûr, un ravissant chat blanc, et évidemment, ils firent des petits, les chats, ils font souvent ça, et donc j'en ai sous les yeux 3, dont les noms m'échappent, mais je ne suis pas non plus un très très grand spécialiste de Walt Disney. La bande originale de ce film, eh bien, j'avoue que je ne sais pas de qui elle était. Oh, j'ai honte, je vais chercher. Mais par contre, je sais que la chanson du générique était signée de Maurice Chevalier, puisque le film se passe, s'il se passe quelque part, en France, et que tous les noms des personnages sont plus ou moins français. Il y a Roquefort, Napoléon, Lafayette, Froufrou. J'imagine que vu de l'autre côté de l'Atlantique, c'est un peu comme ça qu'on imagine la France, et le gay Paris, c'est bien connu. Rappelons aussi pour les fans de Walt Disney, mais que ce n'est pas la première fois qu'on voyait un chat dans un film de Walt Disney, que personne n'aura oublié le chat de Cendrillon qui s'appelle Lucifer, mais oui, c'est ça, que personne n'aura oublié les Siamois de la Belle et le Clochard, et que personne n'aura évidemment oublié le chat qui disparaissait pour laisser place à son sourire, le chat du Cheshire dans Alice au Pays des Merveilles, évidemment. Voilà, on écoute un extrait de la bonne région des Aristoches. Oh, j'y arriverai pas. Allez, dans 24 notes secondes.
Quels sont les chats qui habitent les grands quartiers? Quels beaux minets ont le plus long pédigré? Quels chouchous dans la soubasse prélasse? Naturellement, les Aristocats. Quels doux mimis ont des profils de joconde? Quels chats trésors savent se tenir dans le grand monde? Très gourmets, refusant les ersatz. Mais naturellement, les Aristocats. Aristocats, ils sont toujours, même quand ils font un petit tour, toujours précieux là où ils vont. Ils sont fiers de leur éducation. Dédaignant les ruelles, ils préfèrent les mares aux poubelles, dont se contentent trop vulgaires les chats de gouttière. Oh, waouh! Quel miaou réprouve les gros mots. Quel chat chouchou s'estime sans défaut. Et devant qui les autres chats tirent leur chapeau? Mais naturellement, les Aristocats. Aristocats, ils sont toujours, même quand ils font un petit tour, toujours précieux là où ils vont, ils sont fiers de leur éducation. Dédaignant les ruelles, ils préfèrent les bars aux poubelles, dont se contentent trop vulgaires les chats de gouttière. Oh, waouh! Quel miaou réprouve les gros mots. Quel chat chouchou s'estime sans défaut. Et devant qui les autres chats tirent leur chapeau. Mais naturellement, voyons. Oh, mais naturellement, les
les aristocrates.
Eh bien voilà, c'était évidemment Maurice Chevalier qui parlait des chats chouchous. Je ne sais pas comment il fait pour le chanter. Moi, j'ai même du mal déjà à le prononcer. Un extrait de la bande originale des Aristochats, des Aristocats. La chanson est un bizarre mélange de français et d'anglais. Un film de Wolfgang Reitmann tourné en 1970. Ce que beaucoup, les années 70, considèrent comme de très bonnes années des studios Disney à Wolfgang Reitmann. On doit aussi, vous voyez que j'arrive même pas sur des mots faciles, on doit aussi, crois-je, Robin des Bois, entre autres. Voilà, on va rester avec les chats, évidemment, même si c'est difficile à prononcer. Et on va alors franchir les barrières du temps, puisqu'on va se retrouver en 2011, carrément, pour écouter un extrait de la bande originale de ce qu'on appelle un spin-off. Je pense que maintenant, le terme est bien connu. C'est-à-dire un film qui prolonge un autre film, ou une série qui prolonge une autre série. Vous pouvez prolonger tout ce que vous voulez pour ce qui me concerne, à condition que ce soit entre adultes consentants. Un film qui s'appelle Le Chapoté. Peut-être que les fans de Shrek s'en souviendront. Le Chapoté, c'est un personnage qui apparaissait dans Shrek 2. On le voyait avec ses grands yeux qui grandissaient pour séduire les gens. Et en fait, c'était un sale animal veuleux et intéressé. Mais comme tous les méchants, qui avait tellement séduit le public que les studios avisaient. Eh bien, décidèrent d'en faire un personnage à part entière avec sa propre histoire. Ma foi, ils firent bien, puisqu'en 2011, le Chapoté, en anglais ça s'appelait Puss in Boots, jeu de mots pratiquement intraduisible, surtout pour les enfants. Donc en 2011, eh bien, le film obtint un très très gros succès, réalisé par Chris Miller. Il faut dire que ma foi, c'était plutôt bienvenu, même si on y retrouvait une histoire à base de haricots magiques qui rappellera les bons temps d'autres histoires. Mais derrière le Chapoté, il y avait Antonio Banderas. Et ma foi, eh bien, il se tirait plutôt pas mal de la chose à ses côtés, si on peut dire. En tout cas, à la voix, il y avait Selma Hayek et quelques autres personnages. La musique de ce film a été signé d'Henri Jackman et on va en écouter un extrait. Vous allez voir, ça déménage, caramba, dans 24 notes secondes. Ah ben, je vous l'avais dit, ça déménage en bien, je trouve. Un extrait de la bande originale du Chapeauté, Puss in Boots, un film de 2011 signé par Chris Miller, une musique signée d'Henry Jackman, que les aficionados connaissent plutôt pour être le compositeur attitré, me semble-t-il, mais je m'y perds un peu, de la saga des X-Men. Et voilà, quelque chose de plutôt bienvenu, bondissant, etc., etc. Et comme notre émission est là, c'est pourtant, on pourrait en parler longtemps de nos amis félins. Comme notre émission s'achève bientôt, on va écouter un extrait d'un bande originale d'un film qu'il faut bien considérer comme un chef-d'œuvre, en tout cas pour les amateurs de chats. Un film qui s'appelle « Comme chien et chat », tout simplement, et qui se veut une parodie des films de James Bond. Mais si vous me suivez jusque-là, à la période Roger Moore de James Bond, avec des décors absolument exceptionnels et excentriques et extravagants de Ken Adams, il faut le citer. Et donc, dans « Comme chien et chat », on retrouve cette même idée de chat secret, agent secret, j'y arriverai pas décidément, qui se trouve en lutte contre le pire ennemi, qui sont en fait évidemment des chiens, bien sûr. Les chats sont américains, les chiens sont russes, évidemment. Et bon, à un moment ou à un autre, il faut bien le reconnaître aussi, ces deux-là finissent par considérer qu'ils peuvent s'unir contre leur ennemi commun. L'homme, évidemment, l'homme. Alors, on aime ou pas, c'est quand même très, très, très second, troisième, quatrième degré, mais ma foi, pour ceux qui aiment voir des chiens et des chats numériques qui disent des horreurs, eh bien, c'est plutôt goulayant. Et ma foi, ça a dû rencontrer un certain succès, puisque après Chien et chat, réalisé par Laurence Guterman, le malheureux, eh bien, on eut droit à Chien et chat 2, bien sûr. Que je sache, on n'est pas allé au-delà. Parmi les voix, j'ai cité tout à l'heure Antonio Banderas et quelques autres, on peut citer Jeff Goldblum qui faisait la voix du chat principal, et il y avait même Charlton Heston qui faisait la voix du chef des chiens. Ma foi, il était plutôt bienvenu. Tout ça est bien régressif, je le reconnais, mais de temps en temps, ça fait du bien quand même. Allez, on va s'écouter un extrait de la bande originale de ce film. Elle est signée de John Debney dans 24 notes secondes.
Thank you.
Voilà, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt. Miaou!